France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Et merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Alors aujourd'hui, on va vous donner notamment envie d'aller au Salon du Livre, qui débutera vendredi prochain à la Porte de Versailles. Pour parler de cet événement, nous sommes aujourd'hui avec un écrivain qui dédicacera l'un de ses livres, ou plusieurs d'ailleurs. En tout cas, Le Petit Quiz du Charles de Gaulle, c'est un livre passionnant sur le plus célèbre de nos porte-avions. Alors aujourd'hui, pour en savoir plus sur ce livre et sur ce sujet passionnant et principal, nous sommes avec l'auteur Grégoire Thonat et le capitaine de frégate Alban, pilote rafale sur le Charles de Gaulle. Bonjour et bienvenue messieurs.
Bonjour.
Merci
Laurent.
D'être là.
Bonjour Laurent.
Alors quelle est l'histoire de ce fameux porte-avions? Quelles sont ses particularités? Pourquoi le Charles de Gaulle est-il si lié à notre région, à Paris? Alors ça, c'est, je l'ai appris également grâce à vous Grégoire. Quelle est son actualité et comment Grégoire, eh bien justement, a-t-il mené son enquête pour réaliser ce petit quiz du Charles de Gaulle? On veut tout savoir messieurs. Avant de découvrir pourquoi le Charles de Gaulle est-il finalement si parisien, j'aimerais qu'on raconte son histoire tout simplement. Pourquoi a-t-il été construit et grâce à qui ça a démarré, quand cette histoire, ce projet? Qui a eu l'idée en premier?
Alors, il y a eu, c'est le porte-avions Charles de Gaulle, il faut savoir que c'est le 8e porte-avions de la Marine nationale depuis l'entre-deux-guerres. Voilà, donc il fallait renouveler le Foch et Clémenceau qui étaient vieillissants. Et la décision a été, la toute première décision de faire un porte-avions, ça date de 1980, donc sous Giscard en fait.
Oui,
hein.
Oui,
la première tôle qui a été découpée, c'est 1987.
Oui.
La mise à flot officielle qui a été faite d'ailleurs en présence du président de la République à l'époque, c'était François Mitterrand,
oui,
c'est en 94. Et sa mise... sa disponibilité opérationnelle, c'est 2001. Donc c'est un chantier.
Sa première mission, c'est 2001.
Elle a démarré mi-2001.
C'est fou,
je peux pas dire
ça,
de bêtises, si c'est même pas septembre 2001 ou juste avant en fait avant le 11 septembre.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
Donc c'est un chantier très long. Ouais. Et pourquoi c'est très long? Parce qu'en fait, on va pas dire ça comme ça. C'est presque un prototype. C'est-à-dire qu'il fallait on a réinventé les choses. Et puis surtout, c'était le premier porte-avions à propulsion nucléaire. Il faut rappeler à nos auditeurs une chose, c'est que dans le monde, il n'y a que deux marines qui ont des porte-avions nucléaires, qui est un avantage stratégique majeur. C'est la marine américaine, mais ils en ont 11 et bientôt 12, je crois, et la marine française qui en a un.
D'accord.
Le Charles de Gaulle.
Donc à la différence des autres qui fonctionnent évidemment grâce au pétrole.
Voilà, exactement.
D'accord. Ouais. D'accord. Ça c'est important de le dire même.
Ou alors qui sont des porte-aéronefs qui sont un petit peu différents et qui ont moins de capacité. Porte-aéronef, c'est qu'il n'y a pas de catapulte. Différentes marines ont des porte-aéronefs, mais donc c'est des avions qui ont des capacités d'emport qui sont moindres et qui ont des autonomies moindres. Voilà.
Ouais.
L'intérêt du Charles de Gaulle, c'est que c'est un outil de top niveau. Quoi.
Donc si vous me dites que là, la première mission c'était en 2001, il était déjà construit et fabriqué. Qui est terminé depuis pas mal de temps. Il a été fabriqué où dans la rade de Toulon ou...
Ah non,
à Brest. Oui, d'accord. D'accord. Donc après, il était dans la rade de Toulon.
Il est basé à Toulon.
Maintenant, il est basé à Toulon. Tout à fait, voilà, c'est ça.
D'accord. Et il y avait déjà tout avant 2001, et évidemment, toute l'équipe, tout le personnel.
Alors, ça s'est fait en transfert des anciens porte-avions, donc des Foch et Clémenceau.
D'accord.
Donc le porte-avions Charles de Gaulle a quand même amené une innovation majeure qui est la propulsion nucléaire, qui lui donne une réserve d'énergie à peu près illimitée.
Illimité.
Ah bah oui,
pas besoin.
On change de combustible nucléaire tous les 7-8 ans.
Tous les 7-8 ans, voilà.
D'accord.
Voilà.
Donc ça, c'est pratique.
Donc, ça a des implications en termes opérationnels, notamment en termes de ravitaillement, etc., et de puissance disponible instantanée. Voilà, il faut savoir que quand on lance un avion, donc le Rafale, pour lequel le porte-avions a été dessiné, même si là, on voit un peu l'étendue des programmes. Donc, le porte-avions a été lancé en 80. À cette époque-là, le Rafale était à peine une idée encore.
Ah oui.
Mais
d'accord.
Quand on a construit le porte-avions, on a réfléchi au futur avion qu'il allait emporter.
Ah, carrément.
Forcément. Et
il
ben oui,
pas
parce que. Parce que le.
Ben
et
oui,
non,
sûr.
Il était en projet.
Ouais, d'accord,
il existait,
d'accord,
mais
d'accord.
Dans la tête de certains ingénieurs de chez Dassault. Mais en tout cas, il ne volait pas encore. Et du coup, quand on a réfléchi à ce porte-avions, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, hein, quand on réfléchit au futur, il faut bien qu'on imagine à quoi va ressembler l'avion de demain. Et voilà. Donc, du coup, quand il faut catapulter un avion, pourquoi je viens au Rafale? Parce qu'en fait, le Rafale, il est quand même beaucoup plus lourd que les avions qui existaient à l'époque, dans les années 80. Voilà. Donc, un Rafale, c'est à plein poids max catapultable, 22,5 tonnes, 23 tonnes.
Ouais, quand même.
Voilà. Bah, quand il faut lancer ça, c'est de l'énergie.
Il en
et donc, il faut fournir l'énergie.
Oui, surtout que la piste n'est pas très grande. Hein.
Alors, c'est pas une piste.
Enfin,
donc, c'est une catapulte qui fait 75 mètres, pour tout vous dire. Voilà. Donc, en fait,
disons que le terrain pour démarrer est petit.
Voilà. Et donc, en fait, il faut arriver à lancer quelque chose. Donc, après, les scientifiques feront le calcul d'énergie, un demi de MV2, etc. Bon, bref. Mais toujours est-il que quelque chose qui est quand même relativement lourd, il faut l'amener à une vitesse relativement élevée, de l'ordre de 250 km/h, sur 75 mètres.
Oh là là.
Donc, il faut de l'énergie.
Voilà. Ça envoie du bois.
Il faut que ça envoie.
Et en plus, c'est un humain qui est à l'intérieur de ce truc-là.
Oui, alors il faut que ça envoie, mais pas trop fort, effectivement.
Oui, voilà. C'est-à-dire que vous, en général, vous ne mangez pas une bonne choucroute ou un bon pot-au-feu juste avant.
Bah, ça dépend. Enfin,
oui, ça dépend.
Parce que quand on fait des vols en opération de 6, 7, 8 heures, on mange quand même un peu avant. Parce qu'il n'y a pas de cuisine dans l'avion. Je ne vous apprends rien, mais.
J'ose pas imaginer la sensation que le corps. Qui est procurée par cette vitesse au corps quand ça démarre.
Voilà.
La première fois, ça doit le faire quand même un petit peu. Donc, je voulais vous demander s'il y avait d'autres porte-avions identiques dans le monde. Vous m'avez répondu. Il y en a qu'un autre. Il appartient à qui, aux Américains?
Enfin, la marine américaine a 11 porte-avions.
Oui, mais
bientôt 12.
Nucléaire. Ouais. Ils en ont un.
Ah non, ils en ont 11.
Ah, ils en ont 11.
C'est les Américains.
C'est les Américains. Bon, bah d'accord. Ok. Bon. Capitaine de frégate Alban, vous êtes pilote de rafale sur le Charles de Gaulle depuis combien de temps? Très jeune.
Alors, oui, très jeune. En fait, la formation est longue, hein, de l'ordre de 3 ans. Donc, en fait, j'ai fait mes premiers appontages. Et en plus, je viens d'un avion ancien. On va dire que je vole sur le Charles de Gaulle.
Ouais.
Un avion avant le Rafale, 2006.
Voilà. Appontage, ce qui veut dire.
Appontage, c'est la première fois qu'on pose l'avion. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait,
décoller et poser,
la technique. Voilà. Alors, souvent, le décollage est impressionnant parce que l'accélération est forte, mais il faut bien comprendre que le pilote n'a aucune action dans le catapultage.
Oui.
On s'en remet complètement aux gens du bateau et du pont qui règlent la catapulte pour la tirer à la bonne vitesse, et aux gens du bateau qui orientent bien le bateau par rapport au vent pour éviter que l'avion il sorte mal. Donc là, en fait, le pilote, lui, il attend, il est sur son siège, il dit que ça va bien dans l'avion. Il y a quelqu'un sur le bateau qui appuie sur le bouton.
Ah, à la foire du trône, il y a des trucs comme ça, c'est dément.
Et donc ça, c'est très bien. Et en sortie de catapulte, eh ben, on reprend l'avion. Mais en fait, toute cette phase, on ne maîtrise rien. C'est pas du tout comme un décollage où le pilote a des actions à mener. En revanche, pour l'appontage, c'est pour ça que j'en parlais, en fait, parce que l'appontage, c'est vraiment la partie critique. Et là, ça repose entièrement sur le pilote. Alors, un peu sur le bateau, il faut que le bateau bouge pas trop. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui a le guidon du bateau ne fasse pas trop de mouvement pour pas que le bateau bouge de trop. Et donc ça, en revanche, ça repose beaucoup sur le pilote. Et c'est vraiment la phase délicate de la partie, en fait.
Voilà. D'accord, faut viser
juste,
bien.
C'est pour ça que nous, on référence en premier appontage plus qu'en premier catapultage.
D'accord, je comprends.
Si je peux rajouter quelque chose, pour les pilotes américains, les pilotes français, il ne le dira pas parce qu'il est modeste,
mais les meilleurs.
En fait, oui, c'est les meilleurs, parce qu'en fait, en gros, ils atterrissent sur un timbre-poste. La superficie d'atterrissage...
Les Américains aussi, Grégoire.
Non,
le
porte-avions Charles de Gaulle, c'est 2000 hommes. La longueur, c'est 261 mètres. J'ai pas celle des porte-avions américains.
Ce qui va vraiment dimensionner, c'est la masse en charge là. Donc 40 000 tonnes pour le porte-avions français, 100 000 tonnes pour un porte-avions américain.
Oui. C'est nettement. Il y a 5000 personnes sur un porte-avions américain. Voilà. Il y en a 2000 sur porte-avions. Donc un pilote français, il atterrit sur, pour utiliser une image, sur un timbre-poste. C'est la taille la superficie d'un terrain de tennis.
Donc voilà,
on a du mal à
comprendre. De nuit, par gros temps.
Ah bah oui, mais non, faut choisir.
Truc extrême.
Bon, allez, on va continuer dans un instant. On danse un petit peu plus sur son histoire. On va s'intéresser, bien sûr, à son actualité. Puis je pense que ça va surprendre ceux qui nous écoutent. Le Charles de Gaulle, finalement, est très lié à Paris. Vous comprendrez pourquoi après ça.
France Bleu, Paris. France Bleu. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve, les oies sont rouges, ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, la rive et les larmes, l'amour a ses failles. Because of what you've done to me, baby, I love you.
Chou Wasabi, c'était Julien Doré sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
42 000 tonnes, c'est bien cela, mon capitaine.
42 000
On dit pas mon capitaine pour...
Moi, je suis pas capitaine.
Non. Ah, non, oui, c'est vrai, vous... Grégoire. En fait, mais nous avons un capitaine, mais on ne dit pas dans la marine, on ne dit pas mon capitaine.
Non, alors déjà, oui, alors, bon, je suis désolé, c'est capitaine de frégate.
Capitaine de frégate.
L'appellation, c'est commandant.
Ah bah alors je dis commandant ou capitaine, capitaine.
Commandant.
Bon commandant alors.
Je suis désolé, on expliquera plus tard.
Donc, alors
c'est
commandant, je le note. Commandant Alban. Commandant de frégate, non ça se dit pas non,
non
plus.
Non ça se dit pas. C'est la... Il y a le grade et il y a l'appellation.
Enfin, bref. 42 000 tonnes du porte-avions, voilà ça c'est ça. Charles de Gaulle vogue actuellement d'ailleurs en Méditerranée, loin de Paris. Et pourtant eh bien il y a un lien fort avec la capitale. On en parle aujourd'hui avec Grégoire Tonnat, donc l'auteur du petit quiz de Charles de Gaulle aux éditions Pierre de Taillac et comme le commandant Alban. Pilote de rafale sur le Charles de Gaulle. Bon, Paris est la marraine depuis 20 ans du Charles de Gaulle. Presque 20 ans. Comment ça se traduit tout ça, ce parrainage ?
Alors les bateaux ont toujours été parrainés en fait. Il peut y avoir un héritage historique, etc. Paris, bah, Paris c'est la capitale de la France. Et puis le porte-avions c'est quand même le vaisseau amiral de la marine nationale. Ouais. C'est le plus gros bâtiment de la marine. Et d'Europe aussi, d'ailleurs.
Oui. Ah oui,
c'est le plus important. Et donc, bah, voilà, par analogie, en fait, on l'a, la ville de Paris est devenue la ville marraine en 2001 quand il est devenu opérationnel, tout
et
simplement.
Ça se développe sur beaucoup de choses parce que je sais que la capitale est membre de l'association des villes marines des forces
marraines. Marraine
des forces armées, dont Anne Hidalgo est d'ailleurs la vice-présidente. Mmh. Et chaque année, depuis 2015, il y a aussi un lien avec les collégiens.
Oui, ils envoient, effectivement, il y a des échanges et ils envoient, quand le bateau est plutôt à quai, ils envoient des collégiens là-bas. Je crois que Anne Hidalgo, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques semaines, est descendue
j'ai vu des photos.
À Toulon, et a emmené avec elle des collégiens méritants, j'imagine. Ouais. Enfin, il y a une raison particulière, je ne la connais pas. Donc, elle les a emmenés là-bas. Donc, évidemment, quand on a, je ne sais pas, 12, 13, 15 ans, et que vous passez une ou deux journées, que vous montez. Moi, j'ai eu la chance, la marine.
Oui, enfin, vous l'avez fait après 15 ans, vous, hein.
Oui, j'étais un peu plus âgé, mais on en apprend tous les jours. Et c'est vrai que la visite de ce bâtiment unique, c'est absolument incroyable.
Alors, ce qui veut dire pour les collégiens, c'est qu'il y a tout un parcours. Ils sont d'abord reçus à l'hôtel de ville. On leur explique un petit peu la mission. On les initie un petit peu au rôle.
Il y a un contenu pédagogique qui est délivré.
Avant d'y aller, tout à fait. Les primo marins sont reçus d'ailleurs à l'hôtel de ville. Je ne sais pas si vous avez eu nom, mais les primo-marins, bon ça je... Et puis chaque année, bah, faut le savoir, il y a une équipe du Charles de Gaulle qui participe au marathon de Paris. Mais il y a autre chose, il paraît
que sur le Charles de Gaulle, il y a des allées, des couloirs qui portent des noms de rue de Paris. Vous l'avez vu ça, mon commandant,
oui, effectivement. Donc en fait, sur les, le bateau, c'est donc une mini-ville. Hein. Donc quand on part 4, 5, 6 mois, on a tous les services à bord et donc on essaye de recréer une ambiance ville. Voilà, donc effectivement, le nom des rues y participe et c'est effectivement des noms de rues de Paris. Alors vu le nombre de rues de Paris, il n'y a pas autant de rues
dans le
bateau, mais il y a quand même un certain nombre de coursives. Voilà, c'est le nom qu'on donne aux allées dans le porte-avions.
Comme et ça, voilà. Vous pouvez vous donner rendez-vous. Bah tiens, je t'attends aux 12 rue de Rivoli. Tu sais, c'est avant l'avenue Marceau.
Oui, alors on fait ça et on donne aussi un code paramétrique en fait qui sert à se repérer dans le bateau, qui est quand même plus efficace parce que c'est une ville en 3D en fait.
Ça veut dire quoi, par exemple?
Ça veut dire que en fait, y a plusieurs ponts sur le porte-avions et donc l'intitulé du nom de la rue va pas forcément vous indiquer à quel pont ça se situe. Donc il y a de mémoire, il y a 10 ponts, c'est moins 10 à plus 8 ou 9, voire 10.
Ouais.
Donc en fait, on a un code qui nous donne d'abord le pont, donc l'étage en fait, si vous voulez, après la tranche, donc ça c'est avant-arrière, et puis après un numéro gauche-droite.
D'accord, voilà. Donc je te donne rendez-vous au 8e. Gauche,
par exemple,
au poste 22.
Par exemple, voilà.
Et on s'y retrouve.
C'est ça. Et on s'y retrouve. C'est plus commode que le nom de la rue. Voilà.
Quel sentiment reste en vous, quel souvenir reste en vous, Grégoire Tonna, d'avoir passé quelques heures sur le Charles de Gaulle?
Ah ben, quand je suis arrivé sur le pont d'envol, et pourtant il était à quai, c'est vrai que ça fait une sacrée impression, quoi. Donc c'est vrai que, et puis ça fourmille. Ils étaient en travaux puisqu'ils étaient en rénovation lourde, rénovation de mi-vie. Donc ça grouillait. Il faut savoir une chose, c'est qu'une grande partie de l'équipage a participé à la modernisation de son bateau. Quoi. Donc bien évidemment, il y a des entreprises qui viennent, qui interviennent. Et voilà, c'est un chantier énorme. Il fallait le moderniser sur plein de niveaux, notamment pour la cyber, tout ce qui est cyberguerre, etc. Mais pas que. Voilà. Donc une partie de l'équipage a fait son travail de rénovation du bâtiment. Mmh. Voilà. Donc les marins sont là en permanence avec des entreprises extérieures, etc. Non, c'est un truc de dingue, quoi.
Puisque vous parlez d'entreprises, il faut savoir, et c'est important aussi, que le bureau du commandant, la table, a été réalisée par la prestigieuse école Boulle à Paris.
Ah bah, je ne sais pas.
Et voilà, il paraît que c'est une très belle table ovale en bois, absolument magnifique. Vous avez eu le droit d'entrer dans le bureau
de temps en temps.
Alors, c'est
quoi de mauvaises choses.
C'est quoi le plus haut grade là actuellement sur le Charles de Gaulle?
Alors là, le plus haut grade, la personne qui a le plus haut grade sur le Charles de Gaulle, c'est un amiral.
D'accord.
Mais ce n'est pas le commandant du Charles de Gaulle.
C'est un amiral, mais ce n'est pas le commandant du Charles de Gaulle.
Alors, l'amiral est au-dessus du commandant de Charles de Gaulle, dont le grade est capitaine de vaisseau.
Oui.
Donc, c'est l'équivalent d'un colonel pour ceux qui connaissent un peu l'armée de terre. Alors, cet amiral, en fait, il commande ce qu'on appelle le groupe aéronaval. Mmh. Et ça, c'est l'ensemble de la force qui entoure le porte-avions. Donc, le porte-avions a son commandant, un capitaine de vaisseau, et des bateaux tout autour de lui pour le protéger. Et assurer ses transits.
Voilà, il y a un sous-marin qui accompagne.
Il y a un sous-marin en plus, tout à fait.
Un avion.
Alors, les avions, ils sont sur le porte-avions, donc qu'on lance via le porte-avions. Et après, effectivement, il y a des bateaux orientés en fonction de la mission. Donc, il y a un bateau qui fait de l'anti-aérien, par exemple, pour détecter les avions ennemis. Un autre qui fait de l'anti-sous-marin pour détecter les sous-marins ennemis. On a également un sous-marin dans le groupe, qui permet aussi de faire du pistage discret ou d'aller chercher d'autres sous-marins. Voilà, donc toute cette force concourt en fait à la protection du porte-avions.
Cette force, ces bateaux qui accompagnent, les sous-marins qui accompagnent le Charles de Gaulle, elles sont tous français ou est-ce qu'ils peuvent provenir de pays amis?
Dans tous les déploiements que j'ai fait avec le porte-avions, il y a toujours eu des bateaux étrangers. Donc il y a majoritairement des bateaux français, mais il y a des bateaux également étrangers. Donc pour cette mission, par exemple, il y a des bâtiments portugais. Il va y avoir, alors ils font pas toute la mission, ils font une partie de la mission en général, une semaine, deux semaines, trois semaines. Et après il y a un turnover, donc il y a un Portugais, un Danois, un Britannique, un Italien, un Australien quand il sera vraiment tout à l'est, et bien sûr des Américains qui sont assez régulièrement intégrés avec le porte-avions français, parce que dans la marine américaine, on a une place à part, les Français, avec notre porte-avions.
Très bien, le Charles de Gaulle, c'est le porte-avions de tous les records. Le petit quiz du Charles de Gaulle nous révèle 50 infos essentielles pour en savoir plus sur lui. On va découvrir quelques-unes de ces infos dans un instant, juste après le rendez-vous quotidien de Muriel Giordan, notre reporter d'accès privé. Alors aujourd'hui, on va changer d'univers, on va partir pendant quelques instants dans les coulisses du parc zoologique de Paris pour un déjeuner particulier, je dirais même très très particulier, à découvrir juste après ça.
France Bleu Paris. France Bleu.
look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Like time, and they can't steal love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go.
Alright, il s'appelle Dean Lewis. Dans un instant, un petit tour du côté du parc zoologique de Paris, puis on revient sur le Charles de Gaulle juste après.
12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu.
Dans Paris Express, avec Déborah Grunewald, France Bleu Paris taquine les stars.
Élève Marc Lavoine au coin.
Encore?
Oui, encore. Vous n'avez que 12 ans et avec votre grosse voix, on n'entend que vous dans cette classe.
Eh bien, vous verrez. Un jour, je serai connu et vous regretterez de m'avoir mal parlé.
Mais bien sûr, vous, connu. Et vous ferez des interviews sur France Bleu aussi.
Eh bien, vous verrez.
Mais oui, bien sûr.
Marc Lavoine avec Déborah Grunewald dans Paris Express sur France Bleu Paris toute la semaine à 6h55, 11h55 et 16h35.
France Bleu Paris.
La suite de France Bleu part en live, c'est tout de suite donc avec Muriel Giordan pour un déjeuner avec les girafes du parc zoologique de Paris. Oui, vraiment, une visite inédite, elle nous le fait partager tout de suite.
Voilà, Geoffrey nous a ouvert la porte de la loge des girafes. Vous êtes soigneur ici au parc zoologique de Paris. Qu'est-ce que vous allez faire à cette heure-ci?
On va préparer la barbotine pour les girafes. C'est un petit peu le chocolat des girafes.
Alors là, on entre dans une sorte de grande cuisine. Voilà, il y a un frigo.
Voilà, et on a notre belle marmite dans laquelle on fait bouillir notre eau. Ouais. Parce que c'est important que l'eau soit chaude.
Et elle est bien chaude.
Il faut que ce soit très chaud, il faut que ce soit vraiment... faut que la céréale cuise.
Il y a beaucoup de bananes, là. Il y a des fruits, il y a de la laitue.
Par girafe, on a 3 bananes, 7 oignons, on a 950 grammes de pommes, 1 kg d'eau de carottes. Et donc la barbotine, pour les femelles, on a 5 kilos et 7 kilos pour les mâles. Les mâles ont un peu plus parce qu'ils sont un peu plus gros.
Ça va que le caractère ce matin, sont comment?
C'est un animal qui reste dangereux, mais il est dangereux, c'est un animal qui est dangereux surtout parce qu'elle a peur. Il suffit qu'on rentre avec elle, parce que nous on rentre avec elle aujourd'hui avec une barre, bien sûr, de manière sécurisée. Et parfois elles peuvent entendre un bruit que nous on n'entend pas. Et elles prennent peur, et elles se mettent à courir d'un seul coup dans tous les sens.
C'est quoi le bruit là qu'on entendait?
Là c'est une grue couronnée, qui sont encore en loge et qui vont bientôt sortir.
Okay. Allez, c'est parti.
Voilà, là j'ai préparé simplement sur mon chariot les petits seaux dans lesquels je vais couler la barbotine.
Le fouet.
Voilà, il faut le fouet.
Un fouet, hein, comme pour faire un gâteau, mais en un peu plus gros format.
Donc là, je vais d'abord mettre l'eau chaude, donc je mets à peu près un demi-seau. Voilà. Et j'ai à peu près 3/4 de seau de flocons. Après, on peut en rajouter en fonction de la consistance. Avec l'habitude, on arrive à faire une barbotine assez ferme. Voilà, donc là, je commence déjà à mélanger mon eau pour lui donner de l'élan, en quelque sorte, parce qu'après, ça, comme ça devient compact, c'est difficile à tourner. Et ensuite, progressivement, je verse mon flocon.
Alors, on a le chariot.
Voilà, donc là, j'ai pris deux seaux de barbotine que je vais donner donc aux vieilles girafes qu'on a à l'intérieur.
Elles ont chacune un prénom?
Ah oui, on les reconnaît toutes, elles ont chacune un prénom.
Alors, c'est laquelle, celle-là, là, qui est juste donc, devant?
Juste devant, c'est Guenièvre.
Guenièvre.
Voilà, alors c'est un petit nom charmant pour une girafe. C'est qu'en fait, dans le passé, les soigneurs girafes, traditionnellement, aux eaux de Vincennes, donnaient le nom de leur femme ou de leur fille aux girafes. Aujourd'hui, on a modifié un peu les choses. On essaie de donner des noms un peu plus africains, entre guillemets, pour que ce soit un peu plus crédible. Je descends les gamelles, un peu bruyant, mais bon.
Voilà, il y a une espèce de grosse étagère qui s'est abaissée. Voilà. On place un bac.
Dans le porte-plat.
Ouais. C'est génial, j'ouvre de grands yeux, je suis désolée, oui, Geoffrey, oui. Mais je suis comme une gamine. Voir ces girafes avec ces énormes yeux, sont immenses, c'est beau.
Ah oui,
j'ai envie de...
Des grands cils en plus.
Ah oui, des grands cils.
C'est pas pour faire joli, c'est une utilité, c'est que dans la savane, il faut s'imaginer, il y a du vent, il y a du sable qui vole du coup. Et en fait, les cils, en fermant légèrement les yeux, comme nous on le fait avec le vent aussi et du sable, c'est simplement pour protéger l'œil des impuretés qui pourraient rentrer dans l'œil. Du coup, là devant vous, vous avez donc la plus vieille des girafes qu'on ait, donc... Elle va avoir 36 ans au mois de juillet, ce qui est énorme. Savoir que dans la nature, elle peut vivre 20-25 ans maximum, parce qu'il y a des prédateurs, des maladies. Ici, elles sont quand même chouchoutées, donc on a comme une girafe qui a 36 ans, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est pour le moment la girafe la plus vieille au monde.
Non, vous connaissez tous les prénoms, là?
Ah oui, bien sûr, je les reconnais toutes.
Elles ont faim.
Oh, c'est la gourmandise, hein. Je ne pense pas qu'elles aient faim. Vous savez, avec la quantité de nourriture qu'on donne, elles ont à volonté. Et je pense que c'est vraiment de la gourmandise.
Bon, on parlera du menu sur le Charles de Gaulle dans un instant, mais sachez que le week-end, vous pouvez assister au petit déjeuner des girafes. Réservation sur parczoologiquedeparis.fr. Merci Muriel Giordan.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Midi 36, vous écoutez France Bleu Paris, découverte avec nous aujourd'hui Grégoire Tonnat, auteur du petit quiz du Charles de Gaulle aux éditions Pierre de Taillac, et puis le commandant Alban, pilote de rafale sur le plus célèbre des porte-avions. On a résumé son histoire, on a découvert son lien avec Paris, on va maintenant le visiter un petit peu, messieurs. Grégoire, commandant Alban, est-ce qu'on mange bien sur le Charles de Gaulle? C'est important la cantine.
Oui, c'est très important. On mange correctement. On mange correctement. Faut voir qu'il faut quand même nourrir 2000 personnes, donc ça fait
2000 personnes.
On arrive dans l'industrialisation, donc voilà, par rapport à des bateaux plus petits, forcément, c'est un peu moyen, mais franchement, c'est...
J'imagine, la salle de réfectoire, ça doit quand même être assez
impressionnant. Il y a une centaine de personnels dédiés à la restauration, il y a 30 cuisiniers.
Ah ben, j'allais justement vous demander...
Il y a tous les métiers, hein, les pâtissiers...
Ah ben voilà, j'allais vous demander combien de métiers, il y a tout, quoi, il y a tout comme une ville.
En fait, dans la marine, il y a en gros une cinquantaine de métiers, hein, donc c'est l'électromécanicien, ça va être le pilote, ça va être l'atomiste, ça va être le boulanger, le pâtissier, etc. Et en gros, sur le porte-avions, il y a quasiment tous les métiers de la marine qui sont représentés.
Ça veut dire que quand on part en mission, commandant, on ne peut pas connaître tout le monde. Même au bout d'un certain temps, on ne peut pas croiser tout le monde. Quoi.
Non, on ne peut pas croiser tout le monde. Clairement, on ne peut pas croiser tout le monde, effectivement. Oui.
Je crois que c'est le plus féminin des porte-avions, le Charles de Gaulle.
Il y a un tout petit peu moins de 200 femmes à bord, mm-hmm. ce qui fait un peu plus de 16% du total de l'équipage. Le total de l'équipage, c'est environ 2000 personnes. Hein. Donc, il y a 1200 marins en charge de faire tourner le navire. Et il y a à peu près 600 personnes qui sont dédiées au groupe aérien embarqué, donc les pilotes et tout ce qui tourne autour des avions. Quoi.
Alors l'organisation est effectivement un peu particulière, donc le porte-avions est à Toulon, mais la base d'aéronautique navale qui accueille en fait les avions lorsque le porte-avions n'est pas en mer est à Landivisiau, c'est en Bretagne.
D'accord.
Voilà. Et donc là-bas, il y a trois, ce qu'on appelle flottilles, ça correspond aux escadrons de l'armée de l'air, dont deux embarquent à bord du porte-avions lorsqu'il est déployé. Voilà. Donc en fait, quand on part à bord, on part avec nos avions qui sont en Bretagne, les pilotes et toute la partie technique au sein de la flottille. Voilà, ça fait environ 150-160 personnes. Qui sont donc entre les pilotes, les mécaniciens, les préparateurs de mission. Ils sont pas très nombreux, mais indispensables à la conduite des missions.
J'imagine.
Voilà.
Donc il y a des femmes pilotes de Rafale ?
Non,
pas encore. D'accord.
Pas dans la marine.
Pas dans la marine. D'accord.
Très bien. Dans l'armée de l'air, oui.
Dans l'armée de l'air, oui, bien
tout
sûr.
À fait.
Ouais. Ça vole à quelle vitesse ce bel engin là quand vous êtes en vol après le décollage ?
Ça peut voler donc jusqu'à Mach 1,6. Donc ça fait 1,6 fois la vitesse du son, et en gros en kilomètre heure au niveau du sol, ça fait de l'ordre de 1800 km/h.
Pas mal du... Et vous pouvez rester en vol combien de temps lorsque vous partez du Charles de Gaulle ?
Alors on peut rester, la mission maximum qu'on ait fait, donc ça c'est le fait, c'est 8 heures. Après on peut rester encore au-delà. Pour faire ces durées-là, il faut quand même ravitailler en vol.
Oui.
Donc si vos auditeurs vont voir sur internet là, à quoi ressemble un Rafale, ils verront que sur le côté droit du Rafale, il y a une perche qu'on appelle une perche. Et ça, en fait, c'est un embout avec lequel on va faire un contact en l'air avec une citerne volante. Et donc, on va reprendre du pétrole. Voilà. Sans prise de pétrole, il faut mettre des bidons, etc. Mais on fait 2h30.
Vous m'avez conseillé de regarder des petits films sur un site internet. On peut le conseiller à tout le monde, puisque c'est absolument
public.
Je pense.
Ouais.
Donc, ça s'appelle...
La chasse embarquée.
Chasse embarquée, tout simplement. Ouais. Voilà,
donc, c'est des images, des pilotes par les pilotes, pour les pilotes. Voilà, bon, c'est plus pour les passionnés d'aéronautique, mais tout le monde.
Oui, passionnés
d'aéronautique. J'en doute pas. Mais bon.
Bon, voilà. Voilà, des chiffres, des histoires, des anecdotes, des termes spécifiques. Il y en a des dizaines dans le petit quiz de Charles de Gaulle, de Grégoire Tonnat. Enfin, il y a 50 infos et beaucoup plus d'ailleurs.
Et puis, il y a une présentation faite des différents...
Oui. Il y a vraiment l'historique.
Bâtiments qui tournent autour du Charles de Gaulle.
C'est très, très, très complet. Et puis, alors, vous aurez l'occasion de croiser au Salon du Livre de la Porte de Versailles à partir de vendredi jusqu'à lundi. Vous y serez, hein,
Grégoire ? Alors, moi, je serai samedi en dédicace sur le stand du ministère des Armées.
À quelle heure ?
De 14h à 15h30. Et il y a aussi, je crois que la marine a prévu une animation pour faire gagner des livres.
Ah, alors, c'est bon à savoir tout ça. On va reparler du Charles de Gaulle et de son actualité juste après ça.
France Bleu Paris. France Bleu.
Take a drink of Evelyn's gift.
Lost on You, LP sur France Bleu Paris. France Bleu.
On se dit tout sur France Bleu. Quand on parle de vous, pas de tabou.
Un quart des élèves français seraient en difficulté scolaire. Et pour certains, on parle même d'échec scolaire avec décrochage. Comment ça arrive? Comment on arrive à trouver d'autres voies? Et comment on grandit avec cette étiquette?
Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu dès 14h.
Vous êtes soucieux de mieux manger? Plus sain, plus gourmand, plus varié? France Bleu, le magazine Cuisine Actuelle, vous invite à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci, dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Menton, dans les Alpes-Maritimes, avec un producteur d'agrumes d'exception de la Maison du Citron. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
France Bleu, Paris.
Il était en arrêt technique depuis janvier 2017, 19 mois d'immobilisation à Toulon, mais il vient mardi 6 mars dernier de reprendre la mer et de partir pour un périple qui doit le mener jusqu'à Singapour pour une mission nommée Clémenceau. Quel est le but de la nouvelle mission du porte-avions Charles de Gaulle? Et le reste, bien sûr, on en parle maintenant avec nos invités Grégoire Tonnat et le commandant Alban. Est-ce que vous êtes ou avez été un hibou, commandant?
Oui, tout à fait.
C'est ce que j'ai appris dans le petit quiz. C'est quoi un hibou?
Donc c'est un pilote qui apponte de nuit.
Qui apponte de nuit, voilà.
Voilà,
ouais, voilà tout simplement. C'est... Ça, c'est les petits trucs qu'on apprend.
C'est un peu le Graal.
Ah oui, c'est vrai, c'est le plus dur.
Enfin, un appontage de nuit,
c'est surtout que c'est le plus dangereux, en fait. Et donc ça demande une maîtrise aéronautique voilà, de l'avion qui est un peu supérieur. Donc en fait, on n'est pas hibou tout de suite.
D'accord.
Voilà. C'est en train d'évoluer parce que les avions nous permettent, enfin, sont de plus en plus automatisés.
Ouais.
Alors ça fait débat, du coup.
Oui, du coup, l'homme a de moins en moins d'importance.
Non, l'homme n'a pas. Non, parce qu'en fait,
il n'y
a pas, il y a pas d'appontage automatique. Alors, les Américains sont en train de travailler sur le sujet.
Oui.
Nous, on n'en a pas. En revanche, le pilote est de plus en plus assisté.
D'accord.
Par l'avion et donc arrive à des trajectoires beaucoup plus fines que sans assistance. Voilà.
Bah,
et c'est ça qui nous permet de gagner un peu. Pour l'instant, voilà, on est en train d'expérimenter au fur et à mesure la descente des critères de pilote hibou, de manière à en faire plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de. Enfin, les opérations, notamment. Enfin, voilà, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on soit capable de faire beaucoup de nuits. Plus alors, que ce qu'on faisait avant.
Alors, on peut tous se poser la question. Ça sert à quoi aujourd'hui le Charles de Gaulle? Il vient de partir, je l'ai dit, mardi dernier. Voilà, il s'en va. Il est actuellement en Méditerranée. Il ira jusqu'à Singapour. C'est une mission. Quand il part, il sert à quoi? Par exemple, là, il sert à quoi?
Alors, là, il part. Il va donc, dans un premier temps, il va soutenir les opérations françaises au Levant et au Moyen-Orient. Donc c'est l'opération Chamal, en fait il va apporter son concours à l'opération Chamal en renforçant les moyens, les rafales air déjà déployés
déjà là-bas, ouais.
Là-bas, voilà. Donc ça c'est une mission qu'on connaît, donc puisque on l'a déjà fait lors des précédentes missions, donc à Romanche 1, 2 et 3, donc c'est un autre nom mais c'était avant son arrêt technique, donc on y est allé quand même trois fois, voilà, afin de soutenir l'action française au Levant. À l'issue de ça, il va passer Suez, et poursuivre son transit vers l'Asie. Tout au long de ce transit, il faut voir que quand le porte-avions se déplace, eh bien on porte le pavillon également, donc les intérêts français,
oui.
En termes de diplomatie, en termes d'export, en termes voilà.
Les marins, surnomment le porte-avions Charles de Gaulle 24 000 tonnes de diplomatie. Ils aiment bien utiliser ça.
42 000, mais...
42 000.
Bah oui, c'est moi qui vous l'ai dit tout à l'heure.
42 000, pardon.
Bon, on peut faire une moitié de diplomatie, alors.
Non.
Et l'autre moitié de
non-diplomatie. Merci, 42 000.
Non, mais voilà. Également, lorsqu'on traverse toutes ces zones, donc la Méditerranée orientale, Suez, la mer Rouge, etc., on croise dans des zones qui sont en tension actuellement, et donc ça permet à la marine, ça permet également aux armées et à l'État français d'accroître sa connaissance des zones dans lesquelles le porte-avions se déploie. Voilà, alors c'est ce qu'on fait avec un bateau unique, mais la différence c'est qu'on a des moyens absolument colossaux avec le porte-avions en termes de détection grâce aux avions, donc l'avion radar, l'OK, on n'en a pas parlé, les rafales qui peuvent faire de la reconnaissance, on a des bateaux, plusieurs bateaux, donc on peut recouper beaucoup de choses, et donc en fait on gagne, c'est vraiment un accélérateur de connaissances.
D'accord.
Voilà.
Et il ira jusqu'à Singapour.
Et il ira jusqu'à Singapour, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et dernier point, ça nous permet également de renforcer la coopération européenne. Donc là, c'est bon, pareil, c'est relativement d'actualité, avec l'intégration des bateaux dont on a parlé tout à l'heure. Voilà.
J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que l'armée, la marine, l'aéronavale recrute
toujours.
A besoin de recruter.
Affirmatif.
Très bien.
Nous recrutons.
Voilà.
C'est un métier passionnant. Croyez-moi, ouais. Vous ne le regretterez pas. C'est un métier d'aventure. Et ouais, c'est différent de. Il y a effectivement quelques contraintes, mais ça, voilà. Mm-hmm. Mais ce que vous trouverez, enfin moi, ce que j'y ai trouvé dans l'armée, c'est absolument fantastique. Hein.
Le salon du livre est sans doute une occasion de découvrir tout cela, puisque je le rappelle, il y a un stand du ministère des armées sur lequel vous dédicacerez votre ouvrage, Grégoire. C'est la 39e édition du salon du livre, le petit quiz du Charles de Gaulle et d'autres ouvrages, parce qu'il y a un ouvrage sur
l'auteur, il y a d'autres auteurs. Bien
non,
sûr.
Puis vous avez, il y a eu.
Ah, j'ai d'autres. Oui, il y a d'autres petits quiz.
Georges Clemenceau.
Oui, Georges Clemenceau.
Qu'est-ce qu'il y a la marine,
oui,
la Grande Guerre,
la Grande Guerre,
le jour J,
qui va sortir.
Vous viendrez nous en parler. 50 questions-réponses sur le groupe aéronaval. Sur le porte-avions Charles de Gaulle, c'est aux éditions Pierre de Taillac, ça tient dans la poche, ça tient dans la main, c'est vraiment très efficace, c'est évidemment très complet, vous en avez appris un petit peu plus j'espère aussi sur ce symbole de la France et son lien particulier avec Paris. Rendez-vous donc ce week-end Porte de Versailles au Salon du Livre, merci Grégoire Thomas,
merci,
et
Laurent.
Merci commandant Alban d'être passé par ici aujourd'hui,
merci beaucoup,
bon vent.
France Bleu Paris. France.